Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue pour notre émission. Le week-end du 12 et 13 octobre 2024, donc le week-end dernier, a eu lieu au Lazaret une formation et un partage autour du sujet du pardon. Ce week-end était organisé par les aumôneries protestantes. Je vous propose d'écouter une des interventions qui a eu lieu à ce week-end. Ce sera l'intervention de Agnès-Marie Rive, qui est pasteur de l'Église protestante unie à Sète. Elle nous donne ses réflexions à partir de son vécu personnel sur le pardon dans la vie quotidienne. Je vous laisse l'écouter maintenant et nous nous retrouvons juste après.
Une première démarche qui me paraît essentielle quand une situation relationnelle s'avère difficile, voire conflictuelle, c'est de se laisser toucher par la blessure. Ce n'est déjà pas rien. Sentir la blessure que cela provoque en nous. Je dis bien, pour moi c'est indispensable. C'est la toute première démarche. Et c'est difficile. Parce que la blessure, elle a lieu aussi, c'est difficile de sentir la blessure. La sentir, pas pour la ressasser et la revivre intellectuellement, mais déjà la sentir dans le corps. Dans le corps, sentir où est-ce que ça fait mal, sentir qu'il y a une blessure et qu'il y a peut-être quelque chose d'insupportable et d'inapprochable. Même pour des petites choses. Même pour des petites choses, ça peut paraître insupportable de se laisser toucher par la blessure. Oser sentir que j'ai été touchée, oser regarder cette blessure et rester avec. Alors que le premier réflexe, en général, eh bien c'est le contraire. Le réflexe, c'est un peu comme si ce qui me fait mal, je vais le jeter comme un ballon. Je vais le jeter à l'extérieur, donc sur un autre. L'idée, c'est que, voilà, c'est inconscient évidemment, je jette et donc je vais être délivrée de cette blessure, comme un ballon. Alors je trouve un coupable, tout de suite, n'importe lequel, pour jeter mon ballon dessus. Et ainsi, d'après ce que je crois, je vais éviter la blessure. Sauf que ça ne fonctionne pas, que c'est même le contraire. Donc là, il y a vraiment une erreur de visée, hein, une erreur. Toute première erreur que décrit très bien le tout début de la Bible, hein, quand l'homme dit que c'est la faute de la femme et la femme dit que c'est de la faute du serpent, vous voyez, voilà. Hein, chacun jette le ballon sur l'autre. Et le problème, c'est qu'au lieu que ça fasse sortir la blessure de moi, eh bien, c'est le contraire qui se produit. Plus j'essaie de lancer le ballon sur l'autre, plus il me revient de manière décuplée, en fait. Et c'est la spirale du mal, c'est-à-dire ce qui fait mal, ce qui crée le malheur, hein, qui commence à être alimenté. Et l'engrenage. Donc, premier élément, percevoir la blessure et la sentir déjà. Deuxième élément, quand il y a une situation relationnelle, je répète que je ne parle pas de grandes choses, hein, des situations relationnelles de base, compliquées, regardez avec lucidité quelle implication j'ai pu avoir dans la situation ou dans le conflit. Deuxième chose, pas facile. Surtout si on a jeté le ballon. Si on a trouvé quelqu'un, voilà, si on se dit c'est là que ça se passe, il peut y avoir du vrai évidemment, hein, il peut y avoir du vrai évidemment. Mais est-ce que c'est le seul vrai ? Voilà. Donc est-ce que j'ai une part ? Là donc ça demande une certaine lucidité, une connaissance de soi, de nos propres mécanismes, nos mécanismes de défense, etc. Et d'autant plus que c'est pas toujours visible au premier regard, hein, des mécanismes, voilà. Donc ça c'est la deuxième chose. Mais là, je place vraiment la dimension spirituelle. C'est-à-dire que quand je parle de regarder si j'ai pris une part dans ce conflit, si j'ai une implication personnelle, alors moi j'appelle ça la repentance, c'est peut-être pas le bon mot. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de la culpabilité. La culpabilité, ça paralyse. Donc c'est pas ce regard qui cherche, est-ce que voilà, c'est pas de cet ordre-là. C'est ce que j'appellerais une expérience spirituelle. Je l'appelle plutôt d'ailleurs prière d'illumination, mais c'est même pas une prière à ce moment-là. Hein. Au fond, on parlerait de prise de conscience. Vous voyez, lucidité, c'est voir clair. Voilà, c'est voir clair. Pour voir clair, il faut que quelqu'un me sorte de l'aveuglement, que quelqu'un allume la lumière en quelque sorte. Vous voyez. Voilà. Donc dans cette expérience spirituelle. C'est la manière dont je le comprends, hein. C'est au fond mon Seigneur qui m'éclaire sur un lieu en moi qui est aliéné et qui est torturé, et un lieu où ça fait mal, voilà. Et cette lumière me permet de voir ce que moi je n'arriverais pas à voir forcément. Donc je mets le mot prière parce qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais quand on sent, on peut percevoir, sentir que quelque chose ne va pas dans un lien. Moi c'est beaucoup au travers du corps que je le sens. Ça peut même me donner la nausée parfois, vous voyez, quand je sens que ce n'est pas d'aplomb. Et à partir de là, voilà, mon désir est de voir, de pouvoir être éclairé, voilà, éclairé sur quelque chose dont je n'ai peut-être pas conscience. Mais parfois, il est évident que l'on ne porte aucune responsabilité. Voilà, cela arrive, évidemment. Parfois, on se trouve impliqué dans une situation comme un tiers. Et par exemple, on a été témoin de quelque chose, d'un conflit ou d'une difficulté entre deux personnes. Mais juste parce qu'on a été témoin, quelqu'un peut nous en vouloir. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, j'ai deux exemples tout bêtes. Un premier exemple assez ancien. C'est une personne que je rencontrais dans un lieu où j'allais régulièrement, que je connaissais assez peu, mais voilà, on se connaissait comme quand on fréquente une église ou un club de sport, voilà. Et un jour, elle a décidé de me faire la tête. Je suis arrivée vers elle pour la saluer, simplement lui dire bonjour. Et elle m'a dit, Agnès-Marie, je ne veux plus te parler. Donc moi, j'ai été un peu voilà, surprise, je n'ai rien dit, parce que les bras m'en sont tombés, voilà. Je n'ai pas compris. Et donc en rentrant chez moi, j'ai fait le choix de prier, me souvenant de cette parole que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément évidente, priez pour vos ennemis, priez pour vos ennemis. Alors ce n'était pas une ennemie, mais vous voyez, déjà quand une relation est un peu difficile, bah, ce mot ennemi il peut s'appliquer dans notre vie de tous les jours, dans notre petite vie de tous les jours. Hein. Recommandation forte quand même du Nouveau Testament, la question de la prière. Alors bien sûr, pour moi, prier, c'est pas appuyer sur un bouton qui va résoudre tous les problèmes. Prier, c'est déjà se poser, se déposer devant un autre. C'est s'offrir finalement, s'offrir à un autre, à une rencontre. C'est mettre de l'espace, mettre de la distance, parce qu'il y a du tiers, il y a cet autre, hein. On pourrait, bien sûr, on peut qualifier de Dieu. Mais là, l'idée, c'était justement d'utiliser le mot « autre » pour déplacer. Vous voyez, on entre déjà dans une triangulaire par rapport à l'autre et moi, de la blessure. Il y a quelqu'un d'autre et je me tourne vers ce quelqu'un d'autre qu'est mon Seigneur et mon Dieu. Et entrant dans ce lien de la prière, cette alliance de confiance, d'amour, dans lequel, à un moment, je suis prise, finalement, déposer simplement la personne au cœur de cette prière, déposer son nom, et c'est déjà pas simple. Donc pour des toutes petites choses, là ce que je vous décris, c'était pas difficile. Parfois c'est plus difficile de simplement déposer le nom de quelqu'un dans la prière. Déjà ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple, mais ça c'est à notre portée, il me semble. Parce que l'on est tous capables de prier. Et donc, c'est ce que j'avais fait avec cette personne. Et quelques jours après, je l'ai revue. J'entrais dans la pièce sans que j'aie fait quoi que ce soit. Elle est venue vers moi et m'a saluée. Donc, j'étais aussi interloquée que la première fois. Hein, je n'ai pas plus compris, d'ailleurs. Hein, ni dans un sens, ni dans l'autre. Alors, j'ai compris plus tard. Mais à ce moment-là, ce qui était intéressant, c'est que vraiment, ça m'a tellement réjoui, cette réconciliation, pour laquelle je n'étais pour rien, en fait. Moi, j'avais juste prié, mais c'est tout, en fait. Je ne savais pas pourquoi. Elle était réconciliée, j'étais réconciliée, et chaque fois que j'y pense depuis, ça me donne de la joie. Vous voyez, pour moi, il n'y a pas de résidu. n'y a pas de rancœur résiduelle. Ça aussi, c'est un signe. Hein, y a-t-il du résidu quand je dis que j'ai pardonné, ou n'y a-t-il pas de résidu ? Voilà, c'est un signe aussi, hein, est-ce qu'il y a eu du pardon ou pas. Et voilà, j'ai su beaucoup plus tard, en fait, hein, que cette personne vivait une relation amoureuse avec un homme dont j'étais amie. C'était un ami, en fait, tout simplement. Et je pense que dans son imaginaire, elle avait dû penser, comme là, c'est une relation un peu compliquée, que j'étais peut-être au courant de certaines choses, que j'étais peut-être témoin de certaines choses, ou la confidente, j'en sais rien. Enfin voilà, ça je l'ai su beaucoup plus tard, ce qui m'a permis de comprendre. Voilà. Mmh. Ah, mais vous voyez comment ça peut aller tellement vite, hein, quelqu'un a son imaginaire, vous êtes en face, j'aurais pu m'emporter 10 fois en disant « mais c'est pas juste, mais enfin, et la colère, et pourquoi, et comment ?» Et vous voyez comment des relations peuvent s'envenimer, après on rentre chez soi, on crie sur ses enfants, parce que quand même il y en a marre, son mari, à qui on veut. Vous voyez comment ça peut aller tellement vite, parfois, la fameuse spirale. Hein. C'est pour ça que je prends des choses toutes petites, parce que je crois vraiment que ce sont des lieux, quand c'est tout petit, où c'est plus facile de regarder, de se laisser être éclairé, finalement. Voilà. Ensuite, une deuxième chose, alors toujours pareil, hein, c'est quelqu'un, là, c'est quelque chose dont j'ai été témoin, à nouveau, à l'occasion d'un culte organisé un jour avec des musiciens, quelqu'un qui ne faisait pas vraiment partie de l'organisation, on va dire de très loin, est intervenu auprès des musiciens, se montrant assez autoritaire et même injuste avec eux, alors qu'il n'était pas à sa place, en fait, c'était pas sa responsabilité. Et il a commencé à avoir ce que j'appellerais une petite bagarre de coq entre deux personnes, alors que le culte allait démarrer. Hein, et que cette personne en question était quelqu'un qui avait une vie cultuelle, qui savait ce qu'était un culte, ce qui n'était pas le cas normalement du musicien, et c'était plutôt le musicien qui était pour le coup la victime, si je puis dire. Hein, voilà, l'autre personne lui est vraiment tombée dessus. Alors là, moi j'étais pasteur pour le coup, j'allais démarrer le culte, enfin dans 10 minutes, un quart d'heure, et donc je suis intervenue simplement pour que la situation s'arrête. Voilà. J'ai rappelé que c'était un culte, que c'était pas le moment, et du coup je les ai pas séparés physiquement parce qu'on n'était pas tout à fait là encore, mais pas loin peut-être. Voilà, j'ai remis chacun à sa place, enfin surtout celui qui venait un peu comme ça, se projeter je ne sais quoi, voilà. Et puis au moment où j'allais démarrer le culte, j'allais me diriger vers la chaire, à ce moment-là, c'est intéressant, hein, j'ai vraiment reçu cette parole biblique. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît la Bible par cœur, j'ai une très mauvaise mémoire. Par contre, c'est un peu comme les cantiques, ils me reviennent en tête et ils me disent quelque chose à un moment précis. Et là, vraiment, j'ai reçu cette parole, que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. Que ton frère a quelque chose contre toi. Donc c'était pas une injonction morale, puisque je vous dis, je suis pas quelqu'un qui connaît la Bible et qui me dit il faut que j'applique la Bible, je la connais par cœur, non, pas du tout. Hein, c'était pas de cet ordre-là, mais vraiment, comme sur les icônes orthodoxes, des fois on représente un petit ange à l'oreille de l'évangéliste, vous savez, voilà, et il souffle en quelque sorte, hein, il souffle, voilà, j'aime bien cette image, voilà. Et ce que je trouve intéressant pour moi, c'est l'esprit, hein, en fait, hein, c'est que non seulement cette parole m'était donnée, mais je ne pouvais pas faire autrement que d'aller demander pardon à cette personne, qui elle-même avait été le troubleur de fait, hein, en quelque sorte. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire qu'en recevant cette parole, il m'a été donné aussi cette... Alors en même temps, dans ma tête, je voyais le mécanisme disant, mais attends, c'est lui quand même, hein, c'est lui qui a commencé, toi tu as juste vu, voilà. Hein, le mécanisme, je le voyais, mais il était comme à l'arrière, vous voyez, en arrière-plan. Et... Alors, c'est difficile de dire la question du choix, je ne vais pas parler du libre-arbitre, hein, ici. Mais pour moi, en tout cas, voilà, il y avait cette chose qui m'était donnée, cette possibilité, et je ne pouvais pas commencer le culte sans lui avoir demandé pardon. Et donc, il était tout au fond, j'ai traversé le temple, je lui ai demandé pardon, et là, il m'a serré dans ses bras. Et ça a été tellement beau, enfin voilà, j'en ai encore la chair de poule. Hein, et vous voyez, c'est pareil, là, il n'y avait pas de résidu, aucun résidu. Et chaque fois que je pense à cet homme aujourd'hui, eh bien, c'est de la joie qui est là, vous voyez. Il n'y a pas de résidu de me dire « Ah, mais quand même, gna, gna, gna. » Voilà, non. Parce qu'il y a quelque chose qui a été plus fort. C'est une toute petite chose, hein. C'est plus facile, je vous l'ai dit. Mais d'apprendre avec les petites choses, ça nous donne confiance. C'est ça l'idée, hein. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, donc effectivement, hein, sur... alors, en quoi j'étais impliquée, ben, disons que pour lui, J'avais été le témoin d'une forme de blessure narcissique. Hein, je l'avais remis à sa place, j'avais posé un cadre, voilà. Donc il y avait quelque chose qui faisait que... Mais peu importe, le verset en question disait si tu te... Là, voilà, que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Hein, il ne dit pas le verset que tu le mérites, tu ne le mérites pas, etc. Il a quelque chose contre toi. Ça va loin, hein. Il y a certains versets qui vont loin. Alors on n'est pas dans l'exégèse biblique, là, hein, il faudrait étudier tout le... Voilà, hein. Mais voilà, c'était ça que je voulais partager. Et plus tard, j'ai retrouvé cette parole exacte hein, dans Matthieu 5, là on est chez Matthieu. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Là, je voudrais faire un pas de plus. Un pas de plus, c'est pareil, c'est au travers de l'expérience. Habituellement, on associe l'idée du pardon à un acte qui a été commis ou qui aurait été commis par un autre. Et donc, il s'agirait de pardonner l'acte, c'est-à-dire le faire, l'agir de la personne. Mais je me demande si, s'agissant de l'être, on n'a pas aussi parfois à pardonner. Par exemple, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes, il arrive qu'il y ait des personnes que l'on a du mal simplement à supporter. C'est presque, là aussi, corporel, chez moi, je suis désolée, c'est comme ça, viscéral, on dit. Hein. Voilà, il y a des personnes, ça doit sûrement nous renvoyer à d'autres choses, on n'arrive pas à les supporter. Il y a quelque chose en elles qui fait que c'est vraiment simplement le fait qu'elles soient nous est difficile. Et du coup, ça va facilement aussi, là, on peut facilement rentrer dans des confrontations, voire des conflits, tout simplement parce que déjà, on n'est pas en paix, en fait, quelque part. Et je me disais, finalement, est-ce qu'il n'y a pas là un manque de pardon ? Simplement parce que je n'arrive pas à pardonner à la personne, au fond, d'être ce qu'elle est, avec ses mécanismes de défense, son histoire, sa manière d'être, voire ses opinions. Parfois, on se bat avec quelqu'un pour des opinions. Est-ce qu'on peut lui pardonner d'avoir ses opinions ? Hein, par exemple, ce sont juste des opinions pourtant. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser aussi le mot pardon ? Voilà, c'est une question qui m'est venue. Du coup, voilà, je me dis, quand je ne supporte pas quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de l'ordre du pardon ? Puis-je lui pardonner d'être finalement seulement ce qu'elle est ? Ou plutôt, peut-être de ne pas correspondre à l'image que j'ai de ce que cette personne devrait être. Quand même, si elle était autrement, ça m'irait mieux. Hein? Est-ce que je lui pardonne ça, hein, de ne pas être comme j'aimerais qu'elle soit ? Ça peut s'adresser à nos proches, hein? Nos enfants, nos conjoints, nos collaborateurs, tout ce que vous voulez. C'est toujours les proches hein, avec lesquels c'est plus compliqué. Hein? Pardonner, du coup, c'est peut-être réaliser que la personne, elle est plus, bien plus que ce qu'elle donne à voir. Ou ce que j'en vois, moi. Pardonner, c'est renoncer à penser que je sais tout de l'autre. Et donc, c'est réaliser qu'il y a une part de l'autre qui m'échappe. C'est ça, peut-être, du coup, là, pardonner. Il y a une part de l'autre à laquelle je n'ai pas accès, qui m'échappe. Donc, voilà pour ce point. Vous voyez, c'est des petites bribes, hein, comme ça, que je vous donne. Hein. C'est aussi mes questionnements. Ensuite, dernier point, ça je pense que c'est vraiment important, c'est que pardonner, ça a déjà été dit, hein, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Ça c'est vraiment important. Il me semble que parfois le refus de pardonner peut venir d'une confusion, hein, si l'on croit que pardonner, c'est faire comme si rien ne s'était passé. Et ça, ce serait terrible, terrible. Hein, parce que du coup, ça reviendrait à nier la faute commise, à nier tout ce qui a été vécu par la victime. Or non, rien ne pourra faire que la vie sera désormais comme si l'acte n'avait pas été commis. Quels que soient les actes, hein, ça peut être un divorce, hein, vous voyez, c'est pas forcément, encore une fois, les grands actes de l'histoire comme ceux dont vous allez nous parler. Hein. Ce n'est pas comme si l'acte n'avait pas été commis. La faute demeure, ou l'erreur, parce que je rejoins aussi ce terme, hein, l'erreur de visée, hein. En tout cas, quelque chose a été commis, Et ça a bien, bel et bien impacté quelqu'un. Hein. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que quand les disciples de Jésus font l'expérience de la présence vivante de leur maître, ce qu'on appelle la résurrection, hein, en tout cas ce qui leur apparaît, la manière dont c'est décrit, hein, ils portent les traces des clous dans ses mains et dans ses pieds. Donc là encore, le corps ne fait pas comme si rien ne s'était passé. Il y a les traces dans le corps. Je crois que c'est vraiment important parce que ça pourrait nous empêcher de passer à l'étape suivante du pardon, hein, si on imagine que pardonner, c'est faire comme si rien ne s'était passé. Quelque chose a attenté à la relation, et donc on ne peut pas faire comme si la faute n'avait pas eu lieu. Par contre, peut-être que le pardon, s'il ne consiste pas à supprimer la faute, consiste d'abord à distinguer entre la faute d'un côté et la dette de l'autre, et puis à remettre la dette. La dette uniquement. Alors, c'est l'approche que propose le philosophe Paul Ricoeur, que je ne vais pas développer là, mais en tout cas, c'est une notion que j'ai trouvée chez lui, hein, cette distinction entre la faute et la dette. C'est-à-dire que distinguer entre l'acte commis, la faute, qui a brisé la relation, et d'autre part la dette, c'est-à-dire ce que je pense que l'autre me doit, parce qu'il a commis cette faute. Et du coup, il me semble que dans le pardon, c'est cette dette que je suis appelée à délaisser, à laisser aller, à remettre, c'est une autre expression. D'ailleurs, quand il y a une intervention de la justice, quand elle condamne un fautif à une peine, moi, il me semblait que ça visait, après, ça marche ou ça marche pas, hein, mais que le but, c'est justement de permettre au fautif de payer sa dette vis-à-vis de la société, entre autres, et du coup, d'en être normalement libéré une fois qu'il en sort. Il aurait payé sa dette. Mais on a bien entendu ce matin, je trouve ça très intéressant, que du point de vue de la victime, aucune peine n'est jamais assez forte. Et même une peine extrême ne suffit pas pour la victime. C'est comme si personne ne pouvait jamais remettre cette dette. Comme si cette dette, au fond, personne n'a jamais de quoi la rembourser. Personne. Et c'est là que je trouve intéressant la question du pardon. Parce que ça dit bien que si personne ne peut rembourser la dette, il va bien falloir que ça passe par ailleurs. Par ailleurs. Et là, j'entends à nouveau la dimension spirituelle. Puisque personne n'a de quoi rembourser la dette, c'est peut-être là que je suis appelée à pardonner, c'est-à-dire à remettre, à laisser aller la dette. Pourquoi pardonner, du coup ? Parce que pardonner, eh bien, cela me maintient moi-même en état de torture intérieure. On l'a vu tout à l'heure avec cette spirale du mal, la rancœur, l'alimentation de la spirale et la difficulté à lâcher la spirale. Donc il y a une forme de torture intérieure. Et ne pas pardonner nous maintient finalement prisonniers de cette rancœur. Et finalement, tant que je garde l'autre prisonnier de ma rancœur, je reste moi-même emprisonné. Et le pardon, c'est ce qui me permet de couper le lien avec cet autre. Délier, couper le lien avec cet autre. Du coup, je me retrouve moi-même délié, libéré, délivré. Enfin, pour terminer, du coup, ceci pourrait laisser croire que je suis moi-même l'auteur du pardon. Voilà, puisque j'en serai maître. Non, c'est ce que je disais, hein, justement. Hein, personne ne peut rembourser la dette. Ce n'est donc pas mon acte de pardon qui pourrait libérer l'autre. C'est bien moi pourtant qui pose cet acte. C'est bien moi qui le pose. C'est par moi que le pardon passe. Mais ce lâcher prise ne peut pas provenir d'un volontarisme. Vous voyez, lâcher prise, c'est lâcher, délier. Alors dans le volontarisme, il y a s'accrocher. Vous voyez, c'est le mouvement contraire. Donc il y a vraiment quelque chose d'une conscience, d'une impuissance que j'ai à pardonner. Voilà. Je ne peux pas pardonner. Je n'y arrive pas, ça n'est pas dans ma mesure en quelque sorte. Voilà. Et du coup, il y a bien sûr tout le travail de la prière. Hein. Mais voilà, du coup, et souvent on me dit oui, mais ça y est, j'ai pardonné, et on voit bien que ça n'a pas été fait. Hein, on le voit. Hein, tout parle hein, pour dire que ça n'a pas été fait, et c'est pas pour juger la personne. Quand ça n'est pas fait, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut juste pas, au fond. On ne peut pas. Hein, je pense que vraiment, il faut, pour que le pardon soit réel, il faut qu'il ait été reçu d'un autre. Du tout autre, hein, Dieu lui-même. Je suis convaincue que son pardon est le premier. Et que chaque fois qu'il nous est donné de pardonner, nous avons reçu ce pardon pour que nous puissions le donner. Et du coup, il y a une forme de paradoxe. Moi, je ne peux pas pardonner, et pourtant, c'est par moi et par moi seul que le pardon passe.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus 103.2 et vous pouvez nous écouter en DAB+ ou bien en podcast sur radioallianceplus.fr. Vous venez d'entendre le témoignage de Agnès Marie Rive, pasteur à Sète. Ce témoignage, elle l'a donné lors du week-end des 12-13 octobre au Lazaret sur le thème du pardon. D'autres interventions ont eu lieu. Vous pourrez les écouter prochainement dans le cadre des émissions intitulées « Conférences ». Et maintenant, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. À la semaine prochaine !